carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts vous propose toute une série d'émissions consacrées à l'œuvre ultime dans l'art en compagnie de Jacques-Louis Binet, correspondant dans la section membre libre de l'Académie des Beaux-Arts et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie nationale de médecine. Cette nouvelle émission vous propose de vous pencher sur les dernières œuvres de Raoul Dufy, peintre contemporain mort en 1953 et proche de courants picturaux qui se succèdent à son époque, tels que l'impressionnisme, le fauvisme et le cubisme. C'est bien plus qu'un peintre, Jacques-Louis Binet, puisque Raoul Dufy réalisa une fresque consacrée à la fée électricité en 1937, j'imagine que vous nous en direz quelques mots dans quelques instants. Il réalisa également des tapisseries, des céramiques, des motifs pour des étoffes, mais aussi des décors de théâtre pour Jean Anouilh et Jean Cocteau. C'est aussi un autodidacte qui côtoie dès ses débuts de grands peintres, Jacques-Louis Binet.
Oui, très tôt, grâce au Havre. Il habitait le Havre, il rencontre de grands peintres, mais surtout très vite, il voit les fauves. Et pour une raison obscure, on a voulu, on veut en faire toujours un homme du plaisir. Et Gertrude Stein, qui est intouchable, tout ce qu'a dit Gertrude Stein, vous n'avez pas le droit de contredire, écrit en 1946, Dufy et plaisir. Elle a oublié, d'ailleurs elle n'a pas dû le voir en 1946, qu'il était sur une petite voiture depuis quelques années, et qui va rester toute la fin de sa vie comme un infirme, touché par la polyarthrite chronique évolutive. Et alors, il fait partie en même temps de l'histoire de la médecine, parce qu'il a été un des premiers patients au monde traités par la cortisone, qui a été un médicament qui a, non pas guéri du tout, mais exceptionnellement prolongé la durée de vie, et surtout le mode de vie des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Il était déjà très connu, il va aux États-Unis, à Boston en 50, il est traité, il va beaucoup mieux, pas tout de suite, mais il va beaucoup mieux. Il a beaucoup d'incidents, et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il est mort. Quoi qu'on dise qu'il est mort d'une grippe ou du froid, c'est complètement faux. Il est mort d'une hémorragie digestive, qui est une grande complication de la cortisone. Voilà, donc il en a profité. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle les effets indivisibles. Donc paradoxalement, sans le vouloir, il fait partie de l'histoire de la médecine. À cause de son nom, et parce qu'il était un des premiers malades traités. Bien avant ça, bien sûr, c'est pas du tout un impressionniste, c'est un faux. C'est très différent. Très différent. Il avait connu l'impressionnisme parce qu'il était précédé par l'impressionnisme, mais il est tout de suite marqué par la couleur pure, la couleur avec un ami, c'est Marquet.
Albert Marquet,
avec lequel il peint. Et par exemple, il y a ce tableau, le 14 juillet, il aurait fallu rajouter au Havre, en 1906, ils l'ont peint ensemble. Enfin, chacun a fait son tableau, mais c'est le même tableau qu'on va voir multiplié avec les drapeaux français et aussi anglais qui couvrent les rues, que ce soit de Paris ou que ce soit du Havre. Et puis un autre tableau qui est superbe, Pêcheur à l'ombrelle, à Sainte-Adresse, c'est important, la plage de Sainte-Adresse, c'est celle du Havre, avec une tache rouge, qui est une tache d'ombrelle ou de parapluie, je ne sais pas ce qu'il faut dire, voyez, mais qui, devant la mer toute bleue, qui fait saillie, si je peux dire. Et puis la technique déjà, qui n'est pas du tout celle des impressionnistes, des personnages qui figurent sous forme d'une tache noire. Ce tableau est superbe. Bon, il est tout jeune et il est marqué par son temps, c'est-à-dire que c'est très bien, et très fortement marqué par Matisse. Très fortement marqué par Matisse. Qui craint un peu, parce que Matisse était plus vieux que lui, c'était le théoricien, il trouvait que lux calme et volupté, c'est à cause de lui qu'il est devenu fauve. Bon, mais après, il trouvait qu'il était trop théoricien, et ça lui allait mal. Il aimait beaucoup mieux la souplesse de Marquet, qui était aussi un ami de Matisse, mais qui n'avait pas le côté prof, le côté enseignant, le côté seigneur, il faut bien le dire, de Matisse. Et il se retourne vers l'autre grand, c'est-à-dire Cézanne. Part vers les cubistes, vers Cézanne, voyez, c'est-à-dire le prédécesseur des cubistes, et il peint pendant quelques années, jusqu'en 1912-13, des paysages dans le Midi, l'Estaque, des arcades, des paysages, j'ose pas dire cubistes, mais des paysages très marqués par une certaine géométrie. Et puis il arrive un tableau invraisemblable, qui est la Grande Baigneuse, 1913. Alors, invraisemblable. Parce qu'il se consacre à un mythe, mais un mythe moderne. Ça sera une déesse après. Il va être très frappé par les dieux, par les déesses, par les mythologies grecques. Mais avant, c'est une femme. C'est une femme qui prend un bain et qui n'est pas spécialement jolie, dont les traits sont accusés par... Tout est peinture, quand même. C'est-à-dire que le volume est exprimé par des traits de peinture, si vous voulez. Ce n'est pas un modelé, c'est un peu autre chose. Et puis derrière, il y a toujours la même vue qui est celle des plages de Normandie. Je ne sais pas si c'est Le Havre, si c'est Deauville ou Trouville, mais une grande femme qui en impose. Et ce qui est très intéressant, c'est que très vite, il va être marqué par la mythologie. Très, très vite, il va être marqué par la mythologie. Et il va vouloir transformer cette femme en déesse. Alors, cette déesse s'appelle, il faudrait que je retrouve son nom.
Amphitrite.
Exactement. Et il va la montrer la même, mais cette fois-ci, donc Amphitrite, même femme qui au centre du tableau, et cette fois-ci, non pas devant la côte, non pas devant la terre, mais devant le port. Parce qu'il est obsédé quand même par ce port du Havre. Bon. Et puis, il prend de plus en plus de personnalité. Il prend de plus en plus de personnalité. Il devient un seigneur de la couleur. Et il la dispose d'une manière assez étrange. Il dispose de bandes. De bandes, très souvent dans ses tableaux, il y a trois bandes verticales, plus souvent qu'horizontales, avec des bleus fulgurants. Très souvent une image de la mer. Et puis dans la mer, dans la mer, on voit un peu n'importe quoi, y compris déjà des cargos. Sa grande période sera la création de cette fresque qui s'appelle la fée électricité,
en 37.
Qui a été réalisée en 4 mois. Le jour où on lui a demandé, 4 mois plus tard, la toile était montrée et inaugurée, alors que l'exposition 37, rien n'était fait. Et bien là, le pavillon de l'électricité, qui était précédé de toutes les machines qu'on pouvait imaginer, contenait cette immense toile. Alors, je ne vais pas la détailler, mais c'est un travail énorme.
Hein. Immense toile, vous avez les tailles pour nous donner une idée.
250 panneaux de 2 mètres de haut, 1,20 mètre de large, 5 rangées horizontales, 50 travées verticales. Et la taille générale, 10 mètres de hauteur, 60 mètres de largeur. Elles étaient montrées, pas tout à fait transversalement, un petit peu en oblique, dans la présentation de l'exposition universelle.
Cette fresque, on peut la voir aujourd'hui
au Musée d'Art moderne. La chance, c'est que les toiles ont été conservées et que c'est un des chefs-d'œuvre totalement oublié du Musée d'Art moderne de la ville. Mais c'est un des
de
grands.
De Paris.
Et quand ils ont fait l'exposition récente sur Dufy, toujours sous le mode du plaisir, plaisir. Alors Dufy, vous allez voir, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Jamais il ne s'est plaint. Quand il était pauvre, il était toujours bien habillé alors que ses copains se promenaient comme des va-nu-pieds. Quand il est malade, il est sur une petite chaise, mais souriant, gentil et généreux. Ça, c'est sa force. Donc, je ne sais pas d'où il trouve cette force. Peut-être dans le plaisir de peindre. Mais enfin, le plaisir sur une petite chaise, c'est un plaisir un peu limité. Bon, vous comprenez, parce que quand même, on a un peu charrié, ça. Il a été un peu perdu par son public, parce qu'en même temps qu'il voyait la mer, il allait dans les hippodromes, il avait un public très chic, il s'est beaucoup perdu dans les fleurs. Il a peint des fleurs à foison, et des fleurs qui ne pèsent pas toujours. Et alors, donc la fée électricité, grand chef-d'œuvre, avec l'histoire de l'homme qui, en grattant deux pierres, fait apparaître le feu, jusqu'à la partie gauche, qui est la partie contemporaine, quand on rentre la partie gauche, avec de nouveau une déesse, parce qu'il adorait les déesses, qui s'appelle Iris, qui souffle au-dessus d'un orchestre, qui est là, il adorait la musique, il était très musicien, et devant un panorama du monde, des grandes villes du monde. Ça se termine comme ça, si vous voulez, pour montrer que tout ça, c'était lié à l'électricité, à la lumière. Et en bas, toute une série de savants, il y a plus de 100 savants, depuis l'homme de Néandertal, ou je ne sais pas quand on a créé le feu, jusqu'à Pierre et Marie Curie, tout le monde est là, tout le monde est là. Et puis tout en haut, les dieux qui sont là, avec la foudre qui est aussi là. Et ce n'est pas ennuyeux, c'est très coloré, c'est très varié comme coloration, avec, à ce moment-là, il était pour plusieurs tonalités. Il y a une tonalité bleue qui est dominante, mais tout ce qui est campagne est jaune, des tonalités plus claires encore, pour les villes, évocation des bals populaires, tout est là. C'est un chef-d'œuvre. Il a été aidé, il ne pouvait pas le faire seul, il a été aidé d'un grand nombre de peintres, j'ai oublié, dont son frère, qui n'a pas très apprécié qu'on ait peu parlé de lui.
Enfin, Jean Dufy.
C'est des problèmes de famille. Jean Dufy, qui est très connu aux États-Unis, beaucoup moins en France, parce qu'il n'a peut-être pas le talent qu'avait Raoul. Enfin, peu importe. Immense toile. Et c'est là où il commence à avoir des petits trucs dans les mains. si vous voulez.
Donc la polyarthrite rhumatoïde voilà. dont vous en parliez commence il y a quelques instants.
Bon, il commence à être gêné. Et puis pour lui, alors il s'intéressait beaucoup à la couleur. Il avait un ami chimiste qui avait créé
un
nouveau médium qui s'appelait Maroger. Et Maroger, c'était le médium, il avait repris le médium utilisé par Rubens, par Delacroix, mais il en avait inventé un autre qui était beaucoup plus fluide, car Dufy était un homme peut-être plus des aquarelles que de la grande peinture.
Donc, en fait,
donc il voulait que ça soit quelque chose de lisse, si vous voulez. Et là, il a un grand marchand, qui s'appelle Louis Carré, et il a une sorte d'examen de conscience. Il commence à être malade, il est très très connu. Il était peut-être plus populaire que Matisse, entre parenthèses, si vous voulez. Bon. Mais il commence à voir qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, comment il peut changer et qu'est-ce qu'il a à changer. Il voit qu'il est toujours le roi de la couleur, que son dessin, il peut faire n'importe quoi. Donc il ne dessine plus, il écrit, il fait de la stéréotypie. Les vagues, c'est des points d'exclamation, si vous voulez. Il a un talent pour passer sur une couleur. D'abord, la couleur est complètement dissociée des formes. Vous savez, il y a l'histoire d'une petite fille qui voit marcher, il s'aperçoit qu'elle marche plus vite que la couleur. Bon, ça, ça doit être faux. Enfin, c'est une légende. Mais il dissocie complètement les deux. Il n'a plus besoin de moyens pour maintenir les formes. Les formes sont des signes. Des signes qu'il manie avec une dextérité. Et d'autre part, il ressemble beaucoup à Giraudoux. Il adore l'Antiquité grecque. Lui, soi-disant autodidacte, il passe son temps à appeler les dieux. Les dieux sont toujours là, si vous voulez. Les dieux grecs, je ne parle pas des dieux actuels, mais les dieux grecs sont toujours là, et c'est toujours un hommage aux dieux. Et puis, la maladie arrive, et on voit apparaître cet homme d'une grande distinction, d'une grande générosité. 52 fut sa grande année, il a la Biennale de Venise. Pour vous montrer sa générosité, bien sûr, il reçoit le prix, mais il donne l'argent à deux peintres. Comme il avait gagné beaucoup d'argent, il n'en avait pas besoin. Il la donne à un peintre qui vit toujours, qui s'appelle Lapic, qui était le fils d'un scientifique, et un peintre étranger dont je ne sais plus le nom. Mais il donne l'argent, il coupe l'argent, qui était un argent très important, si vous voulez, pour vous montrer. Et c'est cette même année 52 où il y a de lui une superbe exposition, mais pas à Paris, à Genève. À Paris, il était soutenu par les critiques qu'on n'aime plus. C'est-à-dire Cassou d'un côté, Bernard Rival de l'autre, les critiques que plus personne ne veut lire. Or, Bernard Rival a écrit sur la fée électricité un livre 2 mois après qu'elle soit faite, pour vous montrer son talent et sa vitesse. Alors, apparaît vite le grand thème qui sont les cargos. Ce qui est intéressant, c'est que les cargos, ils ont toujours été là. Et dans, non pas les baigneuses de tout à l'heure, mais la baigneuse de 19, où il y a 3 femmes, qui, on ne sait pas très bien ce qu'elles font. Derrière, il y a déjà
un petit cargo noir.
Bon, on les voit aussi dans Amphitrite de 35. Et puis, on voit des cargos triomphants, en particulier dans Cargo pavoisé et Regate, avec les 3 tonalités, les 3 bandes. Un cargo qui rentre et qui est blanc, qui est clair. Et tout change après la guerre. Après la guerre, c'est-à-dire en 45, il y a un tableau très intéressant qui s'appelle La plage de Sainte-Adresse. En réalité, ce n'est pas la plage, mais c'est le port. Où on voit arriver le premier cargo noir, avec une première chose, c'est que le noir, c'est la couleur. Il n'a pas été le premier à le dire, hein. Manet était
aussi
un peu dans le coup là, mais quand même, le noir, c'est la couleur, et tous ces cargos vont apparaître sur fond noir. Et puis un petit dessin gribouillis au-dessus, pour montrer la forme du cargo. La fumée, je ne sais pas où il la met n'importe comment, à droite, à gauche, mais ce qui est important, et le cargo vient vers le port, vient, arrive au Havre. Alors qu'avant, très souvent, les cargos partaient, glorieux, pour je ne sais quelle conquête. Là, au contraire, ils rentrent au port. Alors, ils envahissent toute la production. On les retrouve partout, ces cargos. On les retrouve d'abord, on trouve l'image dans l'atelier. Le plus beau, c'est celui de 52, un an avant sa mort, où, en avant, il y a le cargo, vous voyez, qui est en vert, sur fond noir. Et puis, en avant, il y a une petite baigneuse. C'est plus cette fois-ci une nymphe, c'est une baigneuse, une déesse. Devant, il y a comme d'habitude ces vues des plages. Qui étaient, vous voyez, pas d'unité de lieu. Tout ça, c'est mêlé. Regardez celui qui pêche des crevettes, qui est ridicule là. Mais il est là dans son attitude. Regardez les tentes, regardez les baigneurs qui regardent. Tout ça, c'est mêlé en bas de la toile. Et vous arrivez ce cargo qui sont quand même, on peut dire ce qu'on veut, je crois qu'il y en a 22, quand même une certaine image de la mort dont il ne parlait jamais.
Donc c'est le crépuscule de la vie.
Ah oui, et alors, une parole qui doit être fausse, vous savez, les paroles des grands peintres à la fin de leur vie, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, que ce ne soit pas des légendes. Alors, il meurt quand même d'une complication de la cortisone. Il meurt d'une hémorragie digestive, personne ne le dit. Mais en réalité, c'est écrit, C'est écrit, et c'est écrit par un très bon médecin français qui s'appelait le professeur Fonvert, qui l'avait suivi, et qui envoie un mot au médecin américain qui lui avait donné la cortisone en disant « Notre malade n'est plus, il est mort d'hémorragie digestive, une complication classique de la cortisone, si vous voulez. » Bon, et en mourant, il dit « Qui a éteint la lumière ?» C'est merveilleux. Hein, et c'est mieux de dire que c'est le peintre du plaisir. Il faut terminer là-dessus.
Et c'était aussi un peintre donc, qui était très axé justement sur la lumière de par ses couleurs. Donc avec cette dernière phrase, c'est vrai que la boucle
qui
est bouclée.
Qui a éteint la lumière ? C'est merveilleux.
Juste une dernière chose, puisque vous avez rapidement parlé d'un médecin américain, d'un médecin français. Précisons que Raoul Dufy a été soigné par un médecin américain.
C'est-à-dire qu'il est parti pour... Il a été à Boston. Le médecin américain avait lu, savait qui il était, a vu qu'il était malade, a vu qu'il était sur une petite chaise. Parce que c'était dans tous les journaux. Quand on le montrait, il ne pouvait pas marcher. Il était sur une petite chaise. Et il lui dit, je crois que j'ai un très bon traitement. Nous sommes aux premiers essais. Est-ce que vous acceptez de venir à Boston ? Ça va durer longtemps. Vous n'aurez rien à payer, sauf le transport, etc. Mais autrement, il n'y aura pas de frais médicaux et je vous prends en charge. Il l'a pris en charge. Il a été beaucoup mieux. Il n'a pas été guéri. Il a été mieux. Mais en particulier, il a pu appuyer les tubes de couleurs sur sa palette, ce qu'il n'arrivait plus à faire. Il y a une certaine force pour appuyer là-dessus. Si vous voulez, moi, avec mes mains de gourde, j'y arrive pas. Mais eux, ils font ça comme ça. Eh bien, de nouveau, il l'a fait, il a un peu marché. Donc, il l'a... Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il est mort brusquement. Donc, il est mort dans la gloire, qui a éteint la lumière.
Et son frère Jean, dont on parle de temps en temps ?
Son frère Jean, c'est un peintre qui lui est très proche, je trouve, un peu trop. Moi, je n'ai pas du tout connu, mais quand j'étais aux États-Unis, petit Français allant dans une galerie, on dit « Vous voulez voir des Dufy ? Pourquoi pas ?» Et on montre quelque chose qui ne ressemblait pas vraiment à des Dufy. C'était Jean. Il s'est fait une certaine réputation aux États-Unis. Et alors, malheureusement, les deux frères sont disputés. Parce qu'on n'a pas assez parlé de Jean au moment de la fée électricité. Mais je crois qu'il avait mobilisé 100 peintres pour l'aider. Bon, dont Jean, qui devait être le... très actif. Alors là, il y a une rupture un peu entre les deux. Ils n'ont pas le même talent. Ils expriment autre chose.
Eh bien, merci, M. Binet. Et donc, j'ajoute que pour voir une partie des œuvres de Raoul Dufy, on peut aller au Musée du Havre, qui a reçu la donation de Madame Dufy et qui rassemble une importante collection de l'artiste.
Il faut surtout aller voir le Musée d'art moderne de la ville. Et pour le moment, elle est en réflexion. Elle a fait électricité. Elle n'était pas visible à la mi-août, mais elle va l'être de nouveau parce que c'est un tableau inouï. Inouï.
Merci Monsieur Binet, et puis prochaine émission, dernière émission consacrée à Alberto Giacometti. Merci.